Merci d'être à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Il est 18h. Bienvenue dans ce journal. Présentation Nafis Adam Sirfou. À la une de ce journal, la zone d'accueil des réfugiés maliens de Tazalit de la région de Tawa a été victime d'une attaque hier aux environs de 14h. Pour l'heure, les assaillants ne sont pas connus. 22 membres des forces de défense ont perdu la vie. Le dossier complet dans ce journal. Le mandat des élus locaux est prolongé pour une durée non identifiée. Une décision prise hier à l'issue de la réunion du Conseil national du dialogue politique CNDP. À suivre les explications du secrétaire permanent du CNDP, Yaya Garba. Enfin, dans la partie magazine de ce soir, nous parlerons de la question de l'orientation des élèves admis à l'entrée en 6e au Niger. Messieurs, dames, bonsoir. Hier, aux environs de 14h, heure de Niamey, l'armée nigérienne qui assure la sécurisation du camp de réfugiés de Tazlit, département de Tassara, à 180 km de la frontière malienne, a été victime d'une attaque menée par des individus non identifiés. Le bilan est lourd. On fait le point avec Tanan Foudey Ahmed.
22 soldats nigériens ont été tués hier aux environs de 14h dans l'attaque des camps de réfugiés maliens de Tazlit à une quarantaine de kilomètres de la préfecture de Tassara. Une information confirmée par le gouvernement nigérien dans un communiqué diffusé en bandeau sur la télévision nationale. Selon une source locale contactée par Studio Kalangou, le commando qui a mené cet assaut était composé d'environ une vingtaine d'hommes de teint clair. Ils s'expriment en tamashek et en arabe, langue parlée également dans cette partie du Niger. La même source précise qu'avant d'attaquer les camps, les assaillants auraient croisé des réfugiés dans la brousse et leur auraient assuré qu'ils n'étaient pas venus pour les attaquer, leur objectif étant les soldats nigériens. Ces hommes en turbané, juchés à bord de deux véhicules et d'une moto, ont pris la fuite vers le nord-ouest en direction du Mali en emportant avec eux des armes, des munitions et des véhicules appartenant à l'armée nigérienne. Une ambulance a été brûlée et un réfugié a été blessé.
Écoutons à présent le témoignage de cette femme qui était sous le camp des réfugiés maliens lors de l'attaque. Voici ce qu'elle dit.
C'est deux véhicules seulement qui sont venus. Ils se sont dirigés vers le militaire et ont commencé à tirer sur eux. Ils ont pris tout ce qui est produit pharmaceutique, mais ils n'ont pas touché aux réfugiés. Ils ont tué 22 militaires et pour ce qui est des blessés, je n'ai rien vu. Ils sont partis avec deux véhicules, l'une appartenant à un particulier et l'autre véhicule appartient aux militaires. Ils ont aussi brûlé l'ambulance.
Cette attaque de la zone d'accueil des réfugiés maliens de Tazalit a créé un choc chez les réfugiés. C'est ce que nous dit Benoît Moreno du Haut Commissariat aux réfugiés HCR Niger qui intervient dans la zone. Il était joint ce matin par Hamado Moumouni.
Bien sûr, les réfugiés sont choqués d'une attaque d'une telle ampleur. Mais comme vous pouvez imaginer, quand vous... une attaque arrive sur un camp, bien sûr que la psyché est un petit peu atteinte, le moral est affecté. Donc là, on a des équipes qui sont sur place pour discuter avec les communautés, voir comment on peut intervenir, surtout d'un point de vue psychosocial ou d'accompagnement. C'est compliqué, mais on sait qu'on est dans un environnement sécuritaire sensible. Il faut se rappeler qu'il y a cela 3 semaines, on a eu une attaque sur le camp de réfugiés de Tabaibre, dans la région de Tilabé. Il y a 2 ans, on avait eu une attaque au niveau du camp de Bangézé. Donc on sait qu'on est dans une situation sécuritaire un petit peu sensible, même si on ne s'habitue pas, mais on sait que la situation est comme ça. C'est une zone qui est sensible, non, au niveau sécuritaire, toute la bande Niger-Mali. On sait que la situation au Nord-Mali est loin d'être stabilisée, donc automatiquement, ça a des répercussions aussi sur le sol nigérien.
Cette attaque de la zone d'accueil des réfugiés maliens en plein jour a fait une vingtaine de morts parmi les forces de défense et de sécurité. Pour l'heure, on ne sait qui a mené cette attaque meurtrière. Le directeur de publication du journal Aïr Info, qui connaît bien la région, pense lui que ce sont les narcotrafiquants qui sont à l'origine de cette attaque. Manzo Diallo dit, qui dit ne pas être surpris par l'attaque, était joint ce matin par Hamado Moumouni.
Franchement, moi, je ne suis pas du tout surpris de cette attaque parce que cette zone, c'est la zone par excellence de tous les trafics, de tous les grands banditismes, des narcotrafiquants.
C'est un camp de réfugiés qui a été attaqué. Pourquoi ce camp, justement?
Ce camp, d'abord, il faut le dire, n'est pas loin de la frontière malienne. Et ce camp, il y a beaucoup de gens qui profitent du titre de réfugiés pour venir. Et, c'est-à-dire flâner allègrement dans les sillages de ces réfugiés et prendre des repères, des informations.
Qui peut avoir attaqué ce camp?
Ce camp, il y a personne qui peut attaquer, si ce n'est pas toutes ces personnes qui n'ont aucun boulot que le trafic de drogue. Les drogues qui quittent la Mauritanie, qui passent par le Mali, passent par le Niger et remontent au-delà des pays limitrophes du Niger.
Ça peut être aussi des islamistes?
Des islamistes, il faut le dire clairement, dans le narcotrafiquant. Je ne sais pas pourquoi les gens hésitent à les qualifier ainsi.
Le directeur de publication du journal Lahir Info, Manzo Diallo, que vous venez d'écouter. Les députés de la région de Tawa, de leur côté, condamnent cette incursion sur le camp de réfugiés maliens et demandent par ailleurs à l'État de poursuivre les assaillants afin de les identifier. Écoutons-les, ils sont au micro de Abdoulaye Mahmoudou.
Effectivement, nous avons appris avec un grand regret ce qui est arrivé au camp de réfugiés dans le département de Tessera. Cette zone, c'est une zone qui fait frontière avec le Mali, c'est une zone qui fait presque frontière avec l'Algérie, donc c'est une zone d'insécurité et l'État a mis suffisamment de moyens. Il y a des patrouilles qui circulent tout au long de la frontière, depuis la région du Tlaberi jusqu'à la région de Tawa. Et nous pensions que l'État va prendre des dispositions pour essayer de rattraper les assaillants et de savoir au juste de qui il s'agit et pourquoi ils l'ont fait.
Il y a attaque parce qu'une sécurité n'est jamais assurée à 100%. Partout ailleurs, il y a des patrouilles, mais quand on regarde l'aspect général du Nord, c'est que la frontière est creuse et que certainement, ceux qui veulent attaquer, ils sont aussi informés de tout ce qui se passe. Ils savent qu'ils ne seront pas inquiétés puisque les réfugiés ne sont pas armés. Les djihadistes, leur raison, c'est de mettre la peur au cœur des gens. Et les forces de défense et de sécurité, ils font leur travail. Mais seulement bon, dès que la garde un peu baisse, il y a l'inévitable qui arrive. Je ne sais pas si les renseignements ont failli, mais toujours est-il que les faits sont là.
Le Conseil national de dialogue CNDP a tenu hier une réunion extraordinaire au cabinet du Premier ministre. Une rencontre a tenu en l'absence des partis de l'opposition et ceux de non-affiliés. Cette réunion, présidée par Brigitte Raffini, Premier ministre et président du CNDP, a décidé de prolonger le mandat des élus locaux pour une durée non précisée. Écoutez les explications de Yaya Garba, secrétaire permanent du CNDP.
Le chronogramme de la CENI, lui, il dit que le 10 octobre, selon ce chronogramme, le président de la République doit convoquer le collège électoral. Alors il fallait qu'avant l'arrivée de cette date, qu'on statue d'examiner la possibilité de tenir les élections à la date du 8 janvier ou pas. On a prorogé le mandat des conseillers, mais il va falloir prendre une loi, il va falloir modifier le code général de collectivité et, au niveau de certains de ces articles, notamment, je pense, l'article 23 et l'article 98.
Ils ont proposé un délai de report?
Non, en fait, le délai tient à la charge du travail qui a été retenue. La charge du travail, c'est la préparation des fichiers électoraux biométriques et des réformes même sur le dispositif électoral du Niger. Donc, on ne sait pas exactement combien de temps ça va prendre. Moi, personnellement, j'imagine que ça peut prendre 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Mais tout dépendra de ce que les techniciens vont donner après leur évaluation en fonction du travail qu'il y a à faire avant l'organisation de ces élections.
Ce sont là des propos recueillis par Habibou Garba. La grève de 5 jours du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base s'achève aujourd'hui. Le SINASEB est en débrayage depuis le 3 octobre dernier pour manifester son mécontentement contre la non-prise en compte de ses revendications par le gouvernement. Quel bilan tirer de ce mouvement? Écoutons Issaka Oumarou, membre du BEN SINASEB, au micro de Asumana China.
Nous tirons un bilan satisfaisant. Nous avons eu écho à l'intérieur du pays comme à Niamey. Nos camarades ont suivi largement cette grève de 5 jours et après nous allons nous réunir pour dégager encore la conduite à tenir.
Est-ce que le gouvernement a réagi?
Le gouvernement n'a pas réagi. Justement, voilà ce que nous sommes en train même de condamner parce que nous avons déposé une plateforme revendicative avant même la rentrée 2016-2017. La partie ministérielle n'a pas songé à nous appeler pour discuter par rapport à nos points de revendication. Le ministre a affirmé sur les zones que les pécules de septembre ont été payées dans certaines localités. Et je vous assure, à l'heure actuelle où je vous parle, les pécules de septembre ne sont pas payées à Niamey. Nous ne voyons pas pourquoi ces deux poids deux mesures du ministre sur des zones, tout simplement pour détourner l'opinion nationale ou bien tout simplement pour nuire à notre structure, parce que nous avons pris l'engagement de défendre les enseignants, vaille que vaille.
Vous venez là d'écouter Issaka Oumarou, membre du Ben Sinaseb, sur le bilan de la grève qui prend fin aujourd'hui. Autre syndicat, celui des agents des municipalités section de Zender qui observe depuis hier une grève de 48 heures. Les agents des municipalités de Zender exigent entre autres le paiement de 3 mois d'arrêt de salaire. Il s'agit du mois de juillet, août, septembre 2016. Le respect également de paiement de salaire à terme échu et la régulation de la situation de la prise en charge médicale. Cette grève a été suivie, d'après le constat de notre correspondant à l'Iketa, dans les différents services des 5 arrondissements communaux et la mairie centrale.
De 8h à 10h, tous les bureaux des 5 arrondissements communaux et ceux de la mairie centrale étaient presque déserts. Les seuls présents sur leur lieu de travail étaient les agents des services déconcentrés de l'État, justifiant leur présence en ces termes. Je cite, « On n'est pas payé sur les caisses de la mairie centrale. » Selon Ibrahim Chaibou de la section syndicat nationale des agents de municipalité du Niger, section de Zender, le maire de la ville a appelé son syndicat pour des négociations. Les pourparlers ont échoué puisque le premier responsable de la ville a indiqué à l'heure actuelle la mairie centrale rencontre des difficultés financières. Le mouvement devrait être reconduit, a indiqué le coordonnateur Ibrahim Chaibou. La décision sera prise au cours d'une assemblée générale convoquée le lundi prochain. Ali Keta, Studio Kalangou.
Suivez les programmes du Studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du Studio Kalangou.
J'aime et je partage.
18h passées de 12 minutes dans le studio Kalangou, à présent la partie magazine de ce soir. En 2014, l'État du Niger a décidé de supprimer le certificat de fin d'études du premier degré. Depuis, les élèves ayant obtenu la moyenne requise sont directement orientés soit au collège d'enseignement général ou dans les écoles professionnelles. Cette année, près de 24 000 élèves sont admis à l'entrée en 6e. Cependant, l'orientation n'a pas été effective. Selon Mahamadou Tchemogou Ali, directeur régional de l'enseignement primaire de Niamey, cette situation se justifie par un problème de constitution des dossiers. 429 dossiers sont concernés dans cette situation. Nous l'écoutons.
Mais non, il n'y a pas eu de problème parce que nous avons fini les travaux depuis le mois d'août. Il faut dire que beaucoup d'enfants à l'époque n'avaient pas fourni leur acte de naissance. Donc les dossiers étaient incomplets. Pour un enfant qui n'a pas fourni son acte de naissance, dont on ne connaît pas l'âge, tous ces enfants-là n'ont pas été orientés. Et c'est maintenant qu'ils viennent avec leur acte de naissance. Et maintenant, dès qu'on vérifie l'acte de naissance, s'il est dans les normes et tout ça, et qu'il a la moyenne d'orientation, on fait une note au niveau de la direction régionale de l'enseignement secondaire pour que lui, il le mette dans le collège qui lui convient. Vous savez, les parents aussi, quand ils sont coincés dos au mur, qu'ils viennent vers nous. Alors que pendant toute l'année, on les a cherchés, on a dit d'amener l'acte de naissance de l'enfant pour qu'il puisse être orienté après la classe de CM2. Ben, tous ceux qui ont en fin de scolarité, c'est-à-dire ceux qui ont redoublé 2 fois au niveau du primaire et qui n'ont pas la moyenne pour passer au collège, on les envoie dans les centres d'apprentissage de l'État. Donc, vous avez des coins comme le musée national, vous avez des centres comme le CFPM, vous avez aussi les centres de formation technique, Calmaro, ou même dans les anciennes Samaria, là, nous avons des centres pour faire la couture, pour faire vraiment beaucoup de choses. Et on oriente des enfants dans ces endroits-là pour qu'ils apprennent un métier au bout de 2-3 ans. Jusqu'en 3e, si tu n'as pas 16 ans, on t'oriente pour que tu ailles apprendre un métier. Parce que vous savez, au Niger, on a dit la scolarisation, c'est jusqu'à 16 ans. Et c'est de très bons métiers et qui donnent de bons avenirs. Il faut que les parents comprennent que ce n'est pas seulement à l'école qu'on peut devenir un grand cadre ou quelque chose comme ça. On peut être un bon cadre en faisant des travaux manuels. Je pense que l'État doit faire l'effort d'aller sensibiliser les parents pour qu'il y ait le maximum de centres et que les enfants soient orientés dans ces centres.
Ce journal est à présent terminé. Restez en compagnie de Hamado Moumouni pour le forum du studio Kalangou.